السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، nous entrons ce soir inshallah ta'ala
dans le 17e cours
de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté du Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah. Et nous entrons dans la quatrième leçon de cet écrit, qui est la suivante. Aqsamu al-tawhid wa aqsamu al-shirk, les catégories de l'unicité et du polythéisme. L'écrit du Cheikh dans ce passage étant long et le temps ne nous permet pas de s'étaler, je vous lis directement la traduction en français, en espérant d'Allah tabaraka wa ta'ala son aide. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, entame cette quatrième leçon et nous dit, selon le sens de ses propos, les catégories de l'unicité sont au nombre de trois. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans le culte, et enfin l'unicité des noms et attributs. Nous parlons ici de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est appelé en arabe tawhid. Le terme arabe tawhid est issu du verbe wahada, qui signifie rendre une chose unique en son état. Il s'agit ici, par la croyance et la foi, d'avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ce qui lui revient de droit. Et les choses qui reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala sont divisées en trois catégories. On les appelle aqsamu tawhid, les catégories de monothéisme ou alors de l'unicité. Le terme tawhid a une base dans les textes. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui raconte le pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en détail. Lorsqu'il nous parle du moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré en état de sacralisation, c'est un état dans lequel on entre, et des choses qui nous sont permises à la base nous deviennent illicites tout au long de l'accomplissement des rites du pèlerinage. Il faut prononcer une parole et Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé la parole du tawhid. Ainsi, les compagnons radiyallahu anhum connaissaient ce terme, l'utilisaient et savaient qu'il désignait ce qui revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Les trois catégories d'unicité sont les suivantes, dans la seigneurie, dans le culte, dans les noms et attributs. Ce sera donc une révision de ce que nous avons étudié dans le cours sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, où nous avons pu voir que la foi en Allah implique de croire qu'il est unique dans la seigneurie, dans le droit au culte, l'adoration, et dans ses noms et attributs. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit l'unicité dans la seigneurie. Croire qu'Allah, exalté soit-il, est le créateur de toutes choses, celui qui dirige tout, et croire qu'il n'a pas dans cela d'associé. C'est ce que nous avons étudié et qui est appelé ar-rububiyya, la seigneurie, qui est un terme utilisé pour désigner les choses que seul Allah est capable de faire, ces choses qui se résument dans trois points, la création, l'octroiement de la subsistance et la gérance des créatures. Allah tabaraka wa ta'ala est unique dans cela. C'est lui qui donne la vie et la mort. C'est lui qui guide qui il veut par miséricorde et égare qui il veut par justice. C'est lui qui donne et octroie la subsistance seul. C'est lui qui accorde la guérison. C'est lui qui fait tomber la pluie. Il donne la vie, la mort. Tout vient de lui, subhanahu wa ta'ala. il est unique dans cela. Et croire qu'un autre qu'Allah pourrait avoir une de ses propriétés relève du polythéisme, de l'association, le pire des péchés dont nous allons parler, inshallah ta'ala. Le deuxième, c'est l'unicité dans le droit à l'adoration. Croire que seul Allah et nul autre que lui n'a le droit à l'adoration, nul autre qu'Allah ne partage avec lui le droit à ce qu'on lui voue quelconque forme d'adoration, que ce soit l'invocation ou alors le fait de le solliciter et lui demander quelque chose que seul Allah est capable de donner, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit: croire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le seul qui mérite d'être adoré en toute vérité et qu'il n'a pas d'associé. Cela est le sens de l'attestation La ilaha illallah. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Toutes les adorations, telles la prière, le jeûne, etc., doivent être vouées sincèrement à Allah seul. Aucune adoration ne doit être vouée à autre que lui. Tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, l'unicité des noms et attributs. Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé dans son livre par des noms et est décrit par des attributs et nul ne les partage avec lui. Croire à tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnés dans le Coran et dans les récits prophétiques authentiques, confirmer cela à Allah seul comme il sied à sa perfection subhanahu wa ta'ala, sans changement de sens, sans négation, sans demander le comment et sans illustration. C'est-à-dire, nous devons croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a des noms et des attributs les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala, et ne pas demander comment, ne pas non plus nier, ni faire ressembler cet attribut à celui de sa créature. Prenons donc un exemple. Nous avons pour croyance que parmi les attributs d'Allah, le fait qu'il est élevé au-dessus de son trône, qui lui-même est au-dessus du septième ciel. Allah tabaraka wa ta'ala est élevé. Le croyant doit y croire et dire « Allah est élevé au-dessus du trône comme il sied à sa perfection. » Subhanahu wa ta'ala. Le croyant n'a pas le droit d'altérer le sens et de dire que dans les textes qui relatent l'élévation d'Allah, ce qui est voulu, c'est tout autre chose en réalité. C'est ce qu'on appelle de l'altération ou alors la dénaturation des textes. Nous devons laisser les textes comme ils apparaissent. Deuxièmement, le musulman n'a pas le droit de nier l'attribut qui a été affirmé par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, le musulman n'a pas le droit de dire comment. Il ne doit pas dire comment Allah est élevé. Comment fait-il? Comment Allah a cet attribut? Ceci est interdit. Quatrièmement, il ne doit pas faire ressembler cet attribut à celui de ses créatures. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit ceci conformément à la parole d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, c'est lui Allah l'unique. Allah, celui à qui s'adresse tout être dans le besoin. Il n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté et nul ne lui est semblable. Également Allah tabaraka wa ta'ala dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend tout, qui voit tout. Subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz dit par ailleurs, quelques savants ont divisé l'unicité en deux catégories, en insérant l'unicité des noms et attributs dans celui de la seigneurie. Mais cela ne doit pas déclencher de débat, car l'objectif des deux méthodes de division est clair. C'est-à-dire que parmi les savants de la sunna, certains ont divisé at-tawhid, le monothéisme ou l'unicité, en trois, la seigneurie, la divinité et enfin les noms et les attributs. C'est-à-dire, le croyant doit croire qu'Allah est unique dans la seigneurie, qui sont tous les actes qu'il est le seul qu'il est capable de faire seul et sans associé, dans la divinité, c'est-à-dire le seul qui mérite l'adoration, dans les noms et attributs, c'est-à-dire il est le seul à être parfait dans ses noms et dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala. D'autres parmi les savants ont dit, le tawhid, le monothéisme, l'unicité, se divise en deux. Certains ont pensé que cette divergence, ou certains ont pensé que c'est une divergence, alors qu'en réalité, cela n'est pas une divergence, puisque ceux qui l'ont divisé en deux ont en réalité introduit l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et attributs dans une seule et même catégorie qu'ils ont appelée al-tawhid al-ilmi, c'est-à-dire le tawhid relatif à la connaissance, car en réalité, l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, c'est en réalité une connaissance que l'on doit avoir. Ils ont dit la deuxième catégorie, al-tawhid al-amali, le tawhid, l'unicité relative à l'acte, car le droit à l'adoration ou l'adoration est un acte. Donc en réalité, ce sont des termes qui sont différents, mais le résultat est le même. Il n'y a donc aucune divergence entre les gens de la sunna, wa lillahi alhamdu wal minna. Certains pourraient dire, d'où viennent ces catégories? Qui vous a permis de diviser le tawhid en trois ou alors en deux? La réponse a été donnée par les savants de l'islam, parmi lesquels le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah, qui commente l'écrit du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Il dit, des mêmes sources desquelles nous avons étudié et puisé les piliers de la prière, les piliers, les obligations, les conditions de tout autre acte d'adoration, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Lorsque les savants ont étudié les textes du Coran et de la Sunna, ils en ont déduit qu'il y a certains textes où Allah subhanahu wa ta'ala enseigne qu'il est unique dans des actes que seul lui est capable de faire. Les savants ont dit, il s'agit ici de ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. Puis ils ont vu que dans d'autres textes, Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il est unique dans le droit à l'adoration. Ils ont dit, c'est l'unicité dans le droit à l'adoration. Et dans d'autres textes, Allah subhanahu wa ta'ala affirme son unicité dans ses noms et attributs. Les savants ont dit, c'est l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Donc en réalité, ceci est en parfaite concordance avec les textes du Coran et de la Sunna. Et d'ailleurs, dans le domaine de la croyance, nous n'avons pas le droit de s'avancer en parlant de quelque chose sans au préalable avoir acquis un savoir saint et une connaissance puisée du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans le but de concrétiser son unicité et de la manifester à travers notre croyance, mais aussi à travers nos actes et paroles. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat At-Talaq, le divorce, verset 12, « Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun, yatanazzalu l'amru baynahun, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Selon le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah est celui qui a créé sept cieux et un nombre égal de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'en réalité, Allah est omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a créé les cieux et la terre, et à la fin, il nous dit « afin que vous sachiez », c'est-à-dire afin que vous ayez cette connaissance qu'Allah est tout puissant et capable de tout, de même qu'Allah tabaraka wa ta'ala à embrasser toutes choses de son savoir. Rien n'échappe au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, on retrouve l'unicité dans la seigneurie et l'unicité dans les noms et attributs. Dans le second verset de Surat, dans Surat Al-Dhariyat, verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans ce verset, Allah nous enseigne qu'il nous a créés afin qu'ils soient adorés. Si on remonte au premier verset, Allah nous enseigne, subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé pour que l'on ait le savoir de ses noms et attributs et de sa seigneurie. Et dans le verset suivant, Allah nous informe qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. Pour conclure et résumer, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on reconnaisse son unicité dans l'adoration, mais aussi dans la seigneurie, dans ses noms et dans ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Comme on le retrouve dans de nombreux versets du Coran. Prenons l'exemple de Suratul Fatiha que vous tous entendez et connaissez. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Et vous pourrez revenir au premier cours où il y a justement le commentaire de Suratul Fatiha. Dans ce verset, on retrouve l'unicité d'Allah dans la seigneurie, comme on l'a expliqué au premier cours. Puis Allah Azza wa Jal dit: Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Et ce sont des attributs d'Allah qui sont la miséricorde, dans le sens rapproché, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution. Ce sont des attributs par lesquels Allah est qualifié, subhanahu wa ta'ala, et que nul ne partage avec lui. C'est donc l'unicité des noms et attributs. Puis on trouve « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul dont nous implorons, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Il y a ici l'unicité d'Allah dans le culte, dans l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. On le retrouve également dans Surat An-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qul a'udhu bi rabbin nas » dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Voici l'unicité dans la seigneurie. Ensuite, Malikin Nas, le roi des hommes. Voici l'unicité dans les noms et attributs. Et enfin, Ilahin Nas, la divinité des hommes. Celui qui doit être adoré réellement, c'est donc l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour plus de détails, vous reviendrez au cours sur la foi en Allah où nous avons lu les explications données concernant les catégories de tawhid, d'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, le musulman doit comprendre, il doit parfaitement assimiler que la parole la ilaha illallah, comme nous l'avons répété à maintes et maintes reprises, n'est pas une simple parole dénuée de sens, mais c'est tout au contraire une parole qui sera immensément lourde dans la balance le jour dernier. C'est une parole qui implique des actes, qui implique des œuvres. Elle a un sens, des conditions dont nous avons récemment parlé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, quiconque dirait la ilaha illallah, puis sollicite un autre qu'Allah en lui demandant ce que seul Allah est capable de donner, cette parole sera annulée à l'image de quelqu'un qui a accompli ses ablutions, entre en prière, mais soudainement en pleine prière, il laisse un gaz s'échapper de lui. Il perd donc ses ablutions et par cela annule sa prière. Il pourrait continuer sa prière toute la nuit, elle n'est pas acceptée du fait que la condition n'est plus présente, qui est la purification. Disons la même chose pour les actions. Les actions nécessitent une purification qui est celle du monothéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de très nombreuses invocations qu'il prononçait pour solliciter Allah, on retrouvait la parole « La ilaha illallah ». Il la disait chaque matin, chaque soir, après les prières quotidiennes. Prenons l'exemple de ce qu'il répétait après les prières quotidiennes. Et je vous incite à l'apprendre et à le comprendre. Et pour avoir plus de détails, vous pourrez revenir, inshallah, à l'explication des invocations et rappels, quelques cours que, grâce à Allah, nous avons donnés et qui sont disponibles sur le site. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La ilaha illallah wahdahu la sharika la » Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah seul et sans associé. « Lahul mulku wa lahul hamd » À lui le royaume, à lui toutes les louanges. « Wa huwa ala kulli shay'in qadir » Et il est omnipotent. Il a puissance sur toute chose. « La hawla wa la quwwata illa billah » Nul force et nul moyen de passer d'une étape à une autre, si ce n'est par Allah, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Wa la na'budu illa iyyah, et nous n'adorons personne d'autre que lui. Lahun ni'ma, de lui viennent les bienfaits. Wa lahul fadl, de lui vient la grâce. Wa lahul thana'ul hasan, Et à lui vont les plus belles éloges. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Mukhlisin. Sincèrement. Lahuddin. En lui vouant le culte exclusif. Walau karihal kafirun. En dépit de l'aversion des incroyants. Dans ces paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait après chaque prière prescrite, et je vous invite une seconde fois à étudier ces paroles, à les mémoriser et à les répéter. Vous aurez d'énormes récompenses, incha'Allah ta'ala. On retrouve dans ces paroles le fait de manifester la croyance que l'on a dans le cœur que nul autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration, seul et sans aucun associé. On retrouve également la croyance que l'on a dans le cœur et la preuve que seul Allah mérite l'adoration dans la parole, à lui la royauté, à lui toutes les louanges, il est puissant sur toute chose. Puisque la royauté est à lui seul, puisque toutes les louanges lui reviennent de droit, puisque c'est lui seul qui a puissance sur toute chose, c'est-à-dire qu'il est omnipotent, c'est donc lui le seul à mériter l'adoration. Et le prophète le répétait sans cesse, alayhi salatu wassalam. Ainsi, le musulman doit s'instruire dans les formules qu'il répète. Elles ne doivent pas être des simples paroles répétées comme des propos insensés, comme du radotage. Ce sont tout au contraire des paroles lourdes de sens. Et le musulman doit s'instruire et comprendre la parole « La ilaha illallah ». Et ne vous appuyez pas sur les fausses traductions « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ou alors, il n'y a de créateur que Dieu, il n'y a de pourvoyeur que Dieu. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la parole du tawhid, la parole qui montre que seul Allah a le droit à l'adoration, tabaraka wa ta'ala. La troisième catégorie de monothéisme, d'unicité, le fait de croire qu'Allah est seul et unique dans ses noms, dans ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala se présente à nous dans le Coran par des noms et des attributs subhanahu wa ta'ala. Nul ne les partage avec lui. Tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que nous devons affirmer ce que lui-même a affirmé lui concernant, sans altération, sans négation, sans chercher à savoir le comment et sans illustrer. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit par exemple qu'il est au-dessus des cieux, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il entend tout et qu'il voit tout, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous donne toutes ces informations, on doit les affirmer parce que lui-même les a affirmées et ne pas changer le sens de ces textes comme l'ont fait certaines sectes égarées. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le donc par ces noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Et délaissez, abandonnez ceux qui dévient de ses noms, c'est-à-dire dans la croyance. سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ils seront rétribués en fonction de ce qu'ils faisaient. On continuera, inshallah ta'ala, au prochain cours. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.